Au niveau du smartphone, ce que je peux te dire, c'est que quand tu scrolles sur ton smartphone, ça active ton système dopaminergique. C'est le circuit de la récompense. En gros, ça marche comme de la cocaïne. Voilà. Basiquement, tu es accro à ton téléphone comme tu es accro à de la cocaïne. Ça marche pareil. La télévision a ce pouvoir de t'endormir et de t'hypnotiser. C'est comme quand tu rêves. Donc, en fait, quand tu regardes, par exemple, pour en revenir au Covid, le discours phare d'Emmanuel Macron, nous sommes en guerre. Donc, c'est un discours qui dure une demi-heure. C'est hyper long. Donc, au bout de 10 minutes, tu es complètement hypnotisé, parce que ça fait la même chose, ça t'hypnotise. Et là, il te balance, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, ayez peur, ayez peur. Et donc, ça va te choquer profondément parce que tes défenses psychiques sont à plat.
Certaines personnes me diront qu'ils ne veulent plus entendre parler de COVID-19, que ce sujet est vidé, qu'il n'y a plus rien à dire et pourtant je suis en total désaccord. Il y a encore beaucoup, beaucoup à dire, beaucoup de conclusions qu'on aurait dû tirer afin de faire les choses différemment dans le futur, apprendre des leçons. Et c'est pourquoi j'ai décidé de parler à Yann Charrier aujourd'hui, qui est psychologue. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le très petit guide de survie à la guerre psychologique de cinquième génération ». Très intéressant. Et il nous explique comment, selon lui, on a utilisé des techniques pour nous manipuler pendant la crise de COVID-19. Yann Charrier, bonjour, bienvenue.
Bonjour Héloïse, merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. C'est toi qui m'as contacté.
Tout
Tu voulais... Tu m'as... hameçonné, je pourrais dire. T'as su piquer ma curiosité avec le petit livre qui est derrière toi. Ça s'appelle le petit, très petit guide de survie de guerre psychologique de cinquième génération, à la guerre psychologique, pardon. Et avant qu'on rentre dans le thème qui est aujourd'hui, c'est de comprendre comment on a utilisé, selon ce que tu approches, certaines armes psychologiques de manipulation pendant la pandémie ou ce qu'on pourrait appeler la crise de COVID-19. J'aimerais que tu nous parles avant tout, qui es-tu et quelle est ton expertise pour parler d'outils de guerre psychologique?
Alors, moi, je m'appelle Yann Charrier, je suis psychologue du travail et des organisations diplômée d'État. Je suis spécialisé en évaluation psychologique des personnes et des systèmes. Et moi, mon expertise dans la manipulation psychologique et la guerre psychologique, elle était de zéro, hein, tout simplement. Non, non, mais voilà, je ne suis pas là pour mentir à qui que ce soit. En 2020, comme beaucoup de gens, ma vie a été bouleversée et je me suis installé dans un petit appartement juste en face d'une école primaire. Et du coup, je voyais tous les matins, tous les soirs, ces enfants aller et venir masqués, distanciés à l'école. Et ça m'a rappelé quelque chose. Mais alors, c'était vraiment un souvenir, mais très, très lointain. Et j'avais vu une image 15 ans auparavant sur un documentaire. Et je suis allé chercher au fond de ma mémoire. J'ai retrouvé ces souvenirs. J'ai fait mes petites recherches. Et je me suis rendu compte que le masquage et la distanciation, c'était des méthodes qu'on avait déjà utilisées auparavant. Hein, on nous avait dit que c'était tout nouveau, ça venait de sortir, mais en fait, c'était faux. C'était faux. C'est juste que très, très peu de gens connaissent ces méthodes. Alors, je me suis renseigné auprès de psychologues, de psychiatres, de psychanalystes, d'orthophonistes, de parents, d'enseignants, mais également de personnel d'école, de personnel médical. Enfin, ouais, j'ai fait la totale pour comprendre qu'est-ce que ça faisait à nos enfants en vrai. C'est-à-dire que d'une part, pour moi, la réalité, elle a deux faces. Une face de la pièce, c'est le physique, le sanitaire, la médecine, et l'autre face de la même pièce, c'est le psychologique. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça fait les protocoles sanitaires? Chez nous, on appelait ça les protocoles sanitaires. Qu'est-ce que ça fait au niveau physique? C'est censé nous garder en bonne santé. Certains disent que ça marche, d'autres que ça ne marche pas. Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que ça nous fait au niveau psychologique? Moi, c'est de ça que je parle. Et donc, j'ai pris sur moi de contacter tous ces gens et de faire un best-of, j'ai envie de dire, de tous les symptômes que ça occasionne chez les enfants. Et quand j'ai vu la liste des symptômes, là, j'ai compris que c'était impossible. C'est juste impossible
La
que...
facture était beaucoup trop élevée, finalement.
Ah oui, mais la facture était impossible. Je veux dire, là, je l'ai page 25 à 27. Si tu veux, je te lis les symptômes.
Allez.
Si ça t'embête pas, ouais. Alors, sur les enfants, moi je travaille sur les enfants. Énurésie, aphasie, baisse d'énergie, hyperactivité, trouble du sommeil, retrait émotionnel, confusion émotionnelle, psychologique ou intellectuelle, régression du langage, phobie scolaire, anxiété, Troubles obsessionnels compulsifs, angoisse et névrose d'angoisse, psychose, hétéroagression, auto-agression, ça veut dire aussi automutilation, hein, c'est très grave. Et syndrome de stress post-traumatique, savoir traumatisme de guerre. Donc moi, la question que je me posais, c'est comment c'est possible qu'un enfant en France ou même au Québec souffre de traumatisme de guerre en allant à l'école? C'est impossible.
Mais
C'est
pour
impossible.
tirer ces conclusions-là, en fait, c'est les gens, les experts à qui tu as parlé, qui, eux, ont parlé de ce qui témoignait ou c'est basé sur des études, des recherches. Comment on tire ces conclusions-là de ces symptômes?
Alors, moi, comme je t'ai dit, je suis psychologue du travail et des organisations. Ce qui m'intéresse, c'est comment l'organisation humaine, dans ton travail, à l'école, ou comment elle influence ta psyché. Là, ça, je l'ai tiré de rapports de professionnels. Et notamment, l'étude, par exemple, la Corona Children Studies Coqui de 2020, qui a été effectuée sur 25 930 participants. Donc, c'est 25 000 enfants qui ont été masqués 4 heures par jour. Tu vois? Donc, c'est très, très solide. Ce genre d'études sont très, très solides. Après, des rapports ou des alertes qui ont été lancées chez les dans pardon dans les par des psychiatres, par des pédopsychiatres, ont été très nombreux, mais souvent très peu écoutés, comme tu dois le savoir.
Oui, en fait, je me souviens une de mes premières vidéos que j'ai faites. Je pense que c'était ma quatrième. Ça s'appelait Les dommages collatéraux. Puis je m'étais vraiment penchée sur ce que les. Parce que c'était vraiment les psychologues puis les psychiatres qui sonnaient l'alarme sur les dommages qui allaient être au niveau psychologique. Parce que c'est comme si on ne considérait pas du tout la portion psychologique dans la santé globale. C'était
Et
juste
c'est
la
ça le
santé au niveau
problème.
du virus, c'est ça.
Tout à fait, c'est ça le problème. Moi, c'était ça mon problème en tant que psychologue. Bien sûr, quand on a un marteau, tous les problèmes sont des clous. Et moi, je suis psychologue. Donc, bon, voilà, je ne suis pas une exception à la règle. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, pour moi, c'est impossible qu'une méthode occasionne une telle variété de symptômes et des trucs aussi graves. Hein,
Vraiment.
automutilation, suicide, c'est
Ouais.
extrêmement grave. Donc j'ai cherché pourquoi, comment c'était possible. Et ce que j'ai trouvé m'a empêché de dormir pendant des jours et des jours. Et donc
Ça,
depuis
on est en
2020,
quelle année? C'est en 2020 que tu as commencé
2020,
à... Vraiment, là, dès le
2020,
début, toi, tu as vu qu'il y avait quelque
non.
chose qui marchait pas.
Non, c'est pas dès le début, c'était en France en 2020, on a eu deux confinements. D'accord? Un en mars-avril, un truc comme ça, et un autre en septembre-octobre ou quelque chose comme ça. Et donc moi, c'est pendant le deuxième confinement que je suis tombé sur ces informations, je suis allé en chercher d'autres. Et par hasard, je suis tombé sur un petit livre de Clara. Ah, je n'ai plus le nom en tête, je suis désolé. D'une dame qui est professeure de philosophie et qui m'a appris que ce sont des psychologues qui ont géré les confinements, les couvre-feux, etc. Et donc, quand j'ai appris que c'est.
Pendant notre crise là, de COVID.
Ouais, c'était des psychologues. C'était des psychologues, une unité de psychologie comportementale. La psychologie comportementale. Si tu veux, il y a plusieurs psychologies, d'accord? On parle souvent de psychologie clinique, c'est-à-dire j'ai un problème, je vais voir un psychologue clinicien qui va m'aider à résoudre ce problème. Ça, c'est classique. La psychologie comportementale, elle sert à modifier ton comportement. Par exemple, tu fumes des cigarettes, tu veux arrêter de fumer, tu veux modifier ton comportement, peut-être que c'est intéressant de voir un comportementaliste pour t'aider à modifier ton comportement. Et ça peut être utile dans plein, plein, plein de domaines. Là, on a fait appel à une unité de psychologie comportementale spécialisée dans le nudge. Le nudge, ce sont.
Parlons du
Ouais.
nudge.
Voilà,
Qu'est-ce qu'un nudge?
ce sont des nouvelles techniques de psychologie comportementale qui servent à modifier ton comportement sans que tu t'en rendes compte. Hein.
Donc, un
Donc,
nudge en anglais, ça signifie un coup de pouce.
un
C'est
coup de
comme
pouce,
te
je
donner
vais.
un petit air d'aller pour que tu ailles dans la direction que je veux.
Voilà, la bonne
La
direction,
bonne, oui,
d'accord?
toujours,
La
toujours.
bonne direction. Donc, moi, pourquoi j'ai. Alors, ça, c'est. Je crois que je suis en train de répondre à la question que tu me posais. Mais moi, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que ces méthodes de nudge qui ont été utilisées pendant le Covid pour nous aider à prendre la bonne décision de nous masquer, de nous distancier, etc., etc., ont été depuis largement réutilisées par les gouvernements pour l'écologie, par exemple, pour nous aider à financer la guerre en Ukraine, par exemple, et de nombreuses autres méthodes. Au jour d'aujourd'hui, il y a 2 semaines, je suis tombé sur le site de La Poste en France qui nous vend l'identité numérique. Hein. Et je reconnais des techniques de nudge.
Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner?
Ah, là oui, bah, je ne t'ai pas préparé d'image sur La Poste, mais je peux te le citer de tête. C'est marqué, 7 millions de Français ont déjà choisi l'identité numérique. Et vous? Donc, 7
Donc là,
millions de
c'est
Français.
l'effet de groupe. Il faut rejoindre le groupe.
C'est ça, c'est un nudge. Et on est quelque part, on a tous envie d'être un peu comme les autres. Hein. On veut
Oui.
tous être un peu différents. Moi, mes chaussures, c'est des Nike, mais elles sont vertes, pas
Ah
comme
oui, quand
toi.
même.
Mais en même
OK.
temps, c'est des Nike,
Ouais.
comme tout le monde. Tu vois, je veux être
Exact.
différent, mais pas comme les autres. Et
Ouais.
donc, ça, c'est un nudge qui est classique. Si je te dis que 51% des Québécois se sont déjà fait injecter, hein, c'est un effet de groupe.
Ouais, mais nous, en
D'accord?
plus, c'était rendu 90%. L'effet était très, très, très fort. La pression était immense ici.
Ah ben j'ai, et voilà, et plus le 90, 95, 99%, plus ça augmente et plus la pression mentale devient forte. D'accord?
Exactement.
Donc moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour qu'on puisse à l'avenir se vacciner en fait des techniques de manipulation utilisées contre nous.
Est-ce
Alors,
que tu... Juste revenir
écoute,
parce que tantôt, tu as
bien
dit,
sûr.
tu t'es remonté dans les souvenirs de... Je trouvais ça intéressant. Tu dis ces techniques-là, il avait déjà été utilisées. Moi, vraiment, je fais partie de celles qui a dit que c'était nouveau. Je pensais que c'était nouveau. La distanciation
Aussi.
sociale, j'avais jamais entendu parler de ça. Le masque, je savais que ça avait été fait surtout en Asie. Moi, j'ai voyagé énormément en Asie. Puis à chaque fois que je vais en Asie, je comprenais pas. J'avais déjà commencé à faire des recherches parce qu'on se foutait un peu de la gueule des Asiatiques qui avaient des masques. Parce que là-bas, ils ont des sourires ou plein de. T'sais, ils les décorent à leur goût. Donc, ça fait partie du style vestimentaire. Maintenant, ils les mettent juste parce que c'est tendance. Puis je m'étais informée, puis à l'époque, avant que ce soit comme interdit de le dire, j'avais déjà trouvé que le masque, c'était pas prouvé que ça faisait vraiment une différence dans la transmission virale. Donc moi, quand la pandémie a commencé, j'étais en Asie, puis c'était hors de question que je porte le masque, parce que je trouvais ça déjà aberrant. Mais j'ai vu que là, on transposait des trucs qui avaient bien marché en Asie à l'international. On demandait à tout le monde, encore en 2025, des fois, je vais faire mon épicerie puis je vois des gens avec un masque dans le visage. Donc, ça a vraiment bien fonctionné.
Bien sûr.
Je serais curieuse de savoir à quel moment tu peux dire que ça a été utilisé avant puis qu'il avait pu voir que ça fonctionnait.
Alors,
Je sais pas si ça
moi, ce que
fonctionne.
j'ai, ce que j'ai vu, c'est pas que ça a été utilisé avant ces méthodes dites. Nous, en France, on appelait ça les protocoles sanitaires. Aux États-Unis, ils appelaient ça mask mandate, c'est-à-dire obligation de masque,
Ouais.
ce qui est très différent. Et en France, spécifiquement, ils ont adopté un terme. Ils disaient les gestes barrières. Voilà,
Oui.
ce qui ne veut rien dire en fait, parce
Oui.
qu'il n'y a, y a aucun geste que tu peux faire de karaté ou de kung-fu pour faire une barrière à un virus. C'est pas possible. Donc c'est de la propagande. Pour moi, c'est de la propagande. On t'emballe le truc. Alors, où est-ce que ça avait été utilisé? C'est ça la question, en fait, moi que je me posais et que tu me poses là d'ailleurs. Donc en fait, moi, je suis remonté en 1951 à l'université McGill à Montréal.
Ah, avec
Ouais.
MK Ultra.
Avec MK Ultra, mais à l'époque, ce n'était pas déjà MK Ultra. MK Ultra, c'est apparu en 1953. Et donc, en fait, ce sont les recherches du docteur Donald Hebb à l'université McGill qui
OK.
travaille sur l'isolation sensorielle. Ce n'est pas du tout une méthode de torture, hein, c'est de la psychologie expérimentale à l'époque, on ne sait pas, vraiment, pour de vrai. Donc, ces méthodes, ces recherches ont été financées par la CIA et la Fondation Rockefeller. Et le docteur Donald Hebb, qui était un brillant psychiatre, psychologue, neuropsy, bref. C'était un mec brillant à l'époque. Donc, il s'est lancé là-dessus. Et au bout d'un moment, il s'est arrêté parce qu'il trouvait que ça allait trop loin
Wow.
et que les dégâts occasionnés sur la psyché humaine étaient considérables.
C'était quoi les
C'est-à-dire,
tests qu'il faisait
bien, moi,
concrètement?
je l'ai, j'ai les photos là. Je t'ai
Ouais.
préparé un petit diapo, mais je n'ai pas eu le temps de te l'envoyer.
Ben, on pourra le mettre après si tu veux, tu pourras
Bah, il
me
n'y a pas de
l'envoyer.
problème. Je te l'enverrai. Donc, les photos là, c'est un
Ah
mec
oui.
sur un lit. Voilà,
Aïe,
ça,
aïe.
c'est de l'isolation sensorielle complète. C'est-à-dire que on te bouche les yeux, les oreilles, tu ne peux plus bouger, tu es sanglé, tu ne peux plus te toucher toi-même, et tu es comme ça dans le noir et t'attends. Ce type, le docteur Donald Hebb, nous explique que personne ne tient 48 heures.
C'est
Personne.
considéré comme de la torture, on sait maintenant, c'est la déprivation d'essence, c'est considéré comme un type de torture.
Tout à fait. Par exemple, si tu prends ton enfant qui n'a pas été sage, que tu l'enfermes dans un placard et que tu attends qu'il soit sage, c'est très mauvais pour l'enfant de faire ça. Parce que
Il y a des gens
d'abord,
qui
il va
font
se
ça.
débattre. Bien sûr qu'il y a des gens qui font ça, Louise.
Oh mon Dieu.
D'abord, il va se débattre, il va crier, d'accord? T'attends qu'il soit sage, et au bout d'un moment, il se calme, et là, tu dis, ah, il est calmé, il est sage. Non, il est en train de se faire traumatiser.
Il est en
Hein?
dissociation.
Et ben, c'est-à-dire que tu es toute seule dans le noir, et donc tout ce que tu vois, tu n'entends rien, tout ce que tu vois, ce sont tes projections inconscientes. En gros, tu es seule dans le noir face à tes démons, et ils t'attaquent. Voilà. Donc ça, c'est très, très mauvais au niveau psychique. Et au niveau neurologique, le cerveau humain a besoin de stimulation. Hein,
Oui.
c'est comme ça. Si tu te mets dans une pièce blanche toute la journée et que tu regardes le plafond, tu t'ennuies et tu as besoin de faire quelque chose. Parce que ce n'est pas normal pour l'esprit humain de rester comme ça dans le vide. C'est
Ouais.
très mauvais pour nous. Tout ça pour dire que voilà, j'ai retrouvé ces histoires en 1951, et donc des applications concrètes de ces théories à partir de 2001 à la prison militaire de Guantanamo Bay à Cuba, où on torture
La
malheureusement.
tristement célèbre prison de Guantanamo.
Tout à fait, où on autorise la torture sur les détenus. Et donc,
Ouais.
j'ai retrouvé des applications de ces méthodes d'isolation sensorielle. Et tu ne vas pas me croire, peut-être, mais j'ai les photos dans le bouquin, c'est ça qui est intéressant. J'espère que pourras les mettre sur cette entrevue, notamment la célèbre torture au masque. C'est-à-dire que la torture au masque, j'essaie de te le mettre
Ah
bien,
ouais.
est très simple. On te prend, on t'assoit. On te fait une distanciation sociale et on te met un masque.
Un
Voilà,
masque
c'est tout.
juste sur comme les masques qu'on a eus, là. Pas un
Voilà.
masque complet, là.
Non, 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 juste un masque en papier avec des menottes, bien sûr, parce que sinon, ils ne se laisseraient pas faire. Distanciation sociale et c'est tout. Ça
Attends, c'est
suffit
considéré
pour
comme de la
torturer
torture?
quelqu'un. C'est de la torture.
Mais les gens ont accepté de s'infliger ça eux-mêmes pendant.
Mais ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas et c'était pour leur bien.
Attends,
D'où le
mais
nudge.
explique-moi comment c'est utilisé comme de la torture dans les prisons. Pourquoi, qu'est-ce que ça a comme impact concrètement?
Alors là, il faut aller voir dans le livre le Kubark, Kubark. Donc c'est le manuel de torture à l'usage de l'armée américaine qui date à peu près des années 70, si je ne m'abuse.
OK.
Donc il a été réédité en français aux éditions Zone. C'est pas très rigolo à lire, mais je le conseille à tout le monde parce qu'il faut se renseigner. Et là, dans ce Kubark, il t'explique les mille et une façons, les meilleures façons qu'ils ont pour torturer quelqu'un. Une des meilleures façons pour torturer quelqu'un, c'est de ne pas laisser de traces. On est d'accord?
Effectivement.
Si je veux te faire du mal à toi et que je ne te laisse pas de traces physiques, alors tu vas être bien embêté pour porter plainte. Hein?
Effectivement,
C'est le
oui.
principe du pervers narcissique. Hein? Tu te maries avec un pervers narcissique, il va te pourrir la vie toute la journée à la maison, il va te harceler, il va te pousser au suicide, mais
Mais
c'est
c'est
pas lui
toi qui
qui
es
t'a poussé.
responsable, tu es 100%
Toi qui es
responsable.
responsable, il t'a pas poussé par la fenêtre, on est d'accord. Donc, ces méthodes ont été largement travaillées à partir des années 50 et opérationnalisées à partir des années 70-80 et maintenant officiellement, notamment à la prison de Guantanamo depuis 2001, mais également, par exemple, à Abu Ghraib. Hein, tu as sûrement entendu parler d'Abu Ghraib. On prenait des détenus, on te met un sac sur la tête, isolation sensorielle, tu ne vois plus rien, et on te fout des électrochocs de temps en temps.
Ah oui, d'accord, bien sûr.
J'ai vu d'autres images aussi là dans la bande de Gaza, avec des prisonniers qui sont non pas masqués de la bouche, mais masqués des yeux. Donc, ils n'y voient plus rien et interdiction de parler, donc isolation auditive et tout ça, c'est très très mauvais et ça détruit l'esprit humain vraiment de façon considérable.
Donc, le but de ça, pour ceux qui font ça dans les prisons, c'est quoi? C'est de casser les prisonniers, d'avoir une meilleure, qui collabore mieux? C'est quoi les symptômes que ça va occasionner? C'est quoi l'intérêt pour les prisons de faire ça sur leurs prisonniers?
Ah bah, il y a deux écoles. Il y en a qui disent que c'est bien pour avoir des informations, des renseignements. Si je te torture assez, tu me diras tout ce que je veux.
Alors que c'est
Le
prouvé que c'est
problème,
faux, en fait,
alors que c'est
maintenant.
prouvé que c'est faux, parce que moi, je sais que si tu me tortures assez, je vais te raconter vraiment n'importe quoi juste pour que tu
Exact.
t'arrêtes, bien
Exact.
sûr. Donc, il y a deux écoles. La question de pourquoi est-ce qu'on remet la torture à l'ordre du jour, en vrai, la vraie réponse, je ne la connais pas. Et je trouve ça, je suis juste contre la torture. Moi, ça ne me plaît pas.
C'est assez simple de dire qu'on est contre la torture. Pour moi, c'est juste extraordinaire de penser qu'il y a des humains qui font ça au moment où on se parle sur d'autres humains. Mais là, toi, ce que tu avances avec ton livre, c'est qu'il y a une équipe de psychologues qui a choisi d'utiliser des méthodes qui savaient qu'ils pouvaient être considérées comme néfastes, disons, psychologiquement, pour ne pas dire d'une forme de torture psychologique. Donc, ils ont demandé de nous masquer, demandé de nous distancier, et pas juste distancier physiquement, mais aussi d'arrêter d'avoir une vie sociale. Et toi, ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que c'était vraiment fait intentionnellement.
Alors, pas tout à fait.
OK.
Parce que ces méthodes, elles existaient avant. En 2001, les mêmes méthodes, c'était des méthodes de torture. En 2020, ce sont devenues des méthodes sanitaires. Ce sont les mêmes méthodes. Donc, même méthode, même résultat. Ça, c'est
On a
simple.
refait le packaging avec un mot qui passe mieux, un petit nom.
Voilà. C'est un peu comme le greenwashing, hein, c'est le même principe. Sauf que ce que je ne dis pas que ce sont les psychologues qui nous ont poussés à nous masquer, qui était au courant que c'était négatif. Ça, je ne le dis pas, je n'en sais rien.
OK.
Tout ce que je sais, c'est que ces gens-là, on leur a donné une mission. et ils l'ont rempli. Leur
C'est
mission était faites-leur faire ça, faites-les rester chez eux, faites-les se masquer, faites-les se distancier, et ils l'ont fait. Mais est-ce qu'ils savaient réellement que ces méthodes étaient négatives? Ça, je ne peux pas
Je
l'affirmer.
comprends, je
J'ai
comprends.
mon idée à ce sujet, puisque moi, je suis juste un psychologue de base et j'ai compris le truc. Bon, après, peut-être qu'ils ont glissé sur une peau de banane, tu sais pas, hein.
Non, c'est ça,
Ça arrive.
on peut pas, comme j'ai eu Graham Hancock en entrevue, puis il disait, est-ce qu'il y a eu une pandémie? Est-ce qu'il y a eu vraiment une catastrophe, un virus? Est-ce que, je le sais pas. Est-ce que les gouvernements ont utilisé cette crise-là pour, ont instrumentalisé cette crise pour avoir plus de contrôle totalitaire sur la population? Oui, j'en ai la conviction.
Voilà, ça, j'en suis également persuadé, notamment quand je suis tombé sur le site de l'OCDE. Il y a le lien dans le bouquin, sur le
Oui.
site de l'OCDE, tu as une carte dynamique du monde qui n'inclut pas la Russie et la Chine, parce que voilà,
Il
mais
n'existe
sinon,
pas.
sur le, voilà, ils sont pas là-bas, mais sinon, des entreprises de nudge, des cabinets de nudge, donc de modification comportementale qui travaillent avec les gouvernements, dans le monde, il y en a au moins 140 de recensés. C'est-à-dire que si tu regardes, je sais pas si je t'avais envoyé le PDF, si tu regardes page 99, bon là j'ai juste l'Europe sur cette carte, mais dans les diapos que je t'ai envoyées, il y a le monde entier, notamment le Canada et le Québec, tu verras que vous êtes pas mal farci, notamment autour des grandes villes et des centres de pouvoir.
Sans grande surprise, on l'a
Sans
vu
grande
aussi.
surprise. Voilà. Et en fait, comment est-ce qu'on peut expliquer que, pour moi, hein, tout simplement. Juste pour moi, comment est-ce qu'on peut expliquer que tous les pays dans le monde ont fait la même chose? C'est parce que les cabinets de modification comportementale associés au gouvernement étaient là dans de très nombreux pays. C'est pas juste qu'on
Donc.
s'est recopié les uns les autres. C'est qu'il y a vraiment
Non, c'était pas
un
intuitif, tout
réseau.
le monde faisait la même chose
Non,
parce que c'était la bonne
non, non,
chose
non,
à
non, non,
faire,
non, non.
là.
Il y a un réseau et ça s'explique aussi par l'existence de ce qu'on appelle des relais organisationnels. C'est quoi un relais organisationnel? Ce sont des entreprises qui servent à synchroniser d'autres entreprises. Là, je pense à McKinsey,
C'est
tout
ça, j'allais dire,
simplement.
hein, McKinsey a été comme beaucoup. Ici, on l'a décrié parce qu'on a un journaliste qui faisait son travail, le seul à peu près, Thomas Gerbet, qui a sorti là, à quel point McKinsey avait été impliqué. Puis je sais qu'en France aussi, ça avait sorti quand même assez fort, qu'il avait fait finalement la gestion de la pandémie au lieu de nos gouvernements. T'sais, ils n'ont pas été démocratiquement élus et pourtant, c'est ce cabinet-là qui a été engagé. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec les cabinets dont tu parles et McKinsey? Est-ce qu'ils travaillent conjointement main dans la main?
Alors, question complexe, en
Oui.
France. Là, je vais parler en France parce que pour le Canada et le Québec, je ne te dirai pas à toi comment ça marche. Hein, chacun son travail.
Ouais.
En France, ça s'explique par le fait que le gouvernement dit gouvernement Macron, ce n'est pas un gouvernement Macron. Si tu veux, en 2016, en 2017, Macron est élu président de la République française, bon, de façon assez douteuse, diront certains. Mais. C'est pas lui qui a créé son parti politique. C'est-à-dire qu'il a contracté McKinsey pour créer un parti politique pour lui. D'accord? Donc, ce n'est pas le parti d'Emmanuel Macron, c'est le parti de McKinsey. OK? Ça fait une grosse différence parce que qui est à la manœuvre? Voilà. McKinsey, et ce n'est pas les seuls. Hein. Il y a le Boston Consulting Group, il y a Accenture, il y en a plein d'autres. En France, et je parle uniquement pour la France, hein, je ne parle pas pour le Canada. Ce sont des entreprises qui vont épauler, qui vont aider les présidentiables à devenir des présidentiers. Et ça a commencé avec Sarkozy et Ségolène Royal, donc ça devait être vers 2008 ou 2005, je sais plus. Et donc depuis, chaque personne qui se présente à la présidentielle va être aidée en pro bono par des entreprises comme ça qui sont là uniquement, gracieusement pour le bien de la France.
Philanthropique.
La philanthropie, tout
Cette
à
bonne vieille
fait.
philanthropie.
Voilà. En France, on nous a dit que McKinsey, ils étaient là uniquement pour la logistique du vaccin. Donc, si tu prends de la logistique, tu demandes à une entreprise qui fait de la logistique frigorifique, à livraison de surgelés, en gros, quoi. Mais eux, ils ne font pas de la logistique, ils font de la stratégie.
Ouais.
La stratégie, c'est l'essence de l'art de la guerre. Hein. C'est pas du tout fait pour rigoler.
Peux-tu nous
Et comme.
parler, parce que tu parles de guerre psychologique, C'est quoi une guerre psychologique? Est-ce qu'on peut dire qu'on a été dans une guerre psychologique et qu'on l'a pas su? Selon toi, on nous a déclaré une guerre, mais sans le dire ouvertement?
Moi, je le pense. C'est ce que je dis moi, et moi personnellement. Pourquoi je parle de guerre psychologique de cinquième génération? Parce que les guerres de première, deuxième et troisième génération, ce sont les guerres physiques. On commence avec des bâtons et des cailloux, on finit avec des armes nucléaires. D'accord? La guerre de quatrième génération, ce sont des guerres qui vont permettre de déstabiliser des gouvernements en utilisant par exemple Facebook, etc., comme on a vu dans les printemps arabes. Les guerres de cinquième génération, ce sont des attaques psychologiques sur les peuples pour les empêcher de réagir. C'est de la guerre contre-insurrectionnelle. C'est pour ça que quand je te dis, si je t'empêche de voir ton voisin, que je ferme le café, le bar, le restaurant, que je t'empêche d'aller au travail, tu ne peux plus te rencontrer avec tes voisins, avec tes amis, avec ta famille. Et quand tu ne peux plus te rencontrer, tu ne peux plus discuter, tu ne peux plus débattre. Et donc, tu ne peux pas prendre de décision ensemble de faire ça ou pas ça. Et donc, tu es enfermé chez toi devant la télé. En gros, c'est ce qui se passe. Et qu'est-ce que c'est la télé? C'est un outil de normalisation.
Et de
Donc, on va
propagande.
normal et de propagande. On va normaliser ton comportement avec, par exemple, de la propagande. Et on va modifier ton comportement et ta façon de penser grâce à une attaque normative. On va modifier les normes. Et on parle de new normal, tu te souviens?
La
Donc,
nouvelle norme,
la nouvelle norme, et voilà. Et donc, cette nouvelle norme, on va la rentrer par les outils de normalisation qui sont à la base la radio, les journaux, la télé, c'est-à-dire les médias mainstream, et ainsi que l'école, beaucoup l'école, hein?
Effectivement, oui, c'est là que ça
Et voilà.
commence.
Et c'est là que ça commence. Moi, je sais que là, on vient de passer le 14 juillet en France, notre fête du bicentenaire de la Révolution. À l'école française de la République, on t'apprend que c'est une démocratie, par exemple. C'est faux. Une république n'est pas une démocratie. Mais
Pourquoi?
ça, on
Pourquoi tu
t'apprend
dis
à
ça?
l'école.
Parce
Bah,
qu'il y a
parce
beaucoup de
que
gens qui
c'est.
seront pas d'accord avec toi.
Ah, bah, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Excuse-moi, j'ai un petit problème de lumière. Je dis ça parce que j'ai lu l'excellent livre de Francis Dupuy-Déry,
Ton
qui est
petit doigt.
professeur à Sciences Po, à l'UQAM ou à l'UQAC.
Ah ouais, ok. C'est
Et
comment il
j'espère
s'appelle?
que tu. Francis Dupuy-Déry, il a écrit le livre Démocratie, histoire politique d'un mot. Donc à la base, c'est une thèse doctorale. Il en a fait un livre parce que personne n'a envie de lire une thèse. Hein. Franchement, c'est un peu chiant à lire. Mais le livre est très, très sympa et
Ok.
j'espère que tu l'inviteras à l'occasion. Ce
Avec, je
monsieur
vais
nous
faire mes
explique.
recherches.
Ah, tu peux y aller, franchement, c'est un gars exceptionnel, très, très intéressant. Il nous explique que le mot démocratie n'apparaît pas en 1789 en France. C'est pas vrai. Il apparaît en 1830 aux États-Unis. Parce
Ah
qu'à
ouais.
l'époque de la Révolution française, le mot démocrate, c'est une insulte.
Ah ouais, pourquoi?
Oui, les personnes qui ont fait la Révolution française, ce sont des riches et des notables à l'époque. Ce n'est pas le petit paysan du coin. Ce sont des riches et des notables qui ont pris le pouvoir. En fait, c'était un genre de coup d'État et qui ont décidé de créer une république. Une république, c'est un système antidémocratique. La preuve, si moi je veux modifier une loi, je ne peux pas. On ne me demande pas mon avis. J'ai le droit de voter pour quelqu'un qui va décider pour moi. Ça, ce n'est pas de la démocratie. La démocratie indirecte, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est de la propagande. C'est de la pensée magique.
Mais on n'est plus en démocratie, en fait. Est-ce que
Ah
ça
non.
existe encore la démocratie dans notre monde?
Pour moi, on ne l'a jamais été.
On l'a jamais été, même pas en
Mais c'est
Grèce.
ce que je pense. Alors, peut-être en Grèce à l'époque, sauf les femmes et les esclaves et les enfants,
Les
c'est-à-dire que c'était
moindres humains.
les moindres humains, c'est-à-dire que c'était la démocratie pour 25% de la population, mais ça ressemblait peut-être plus à une démocratie. En France, il n'y a jamais eu de démocratie. Je ne sais pas pour le Québec et le Canada, ça, c'est à toi de voir, t'en penses ce que tu en veux, ça te regarde, mais moi, je parle de mon pays, il n'y a jamais eu de démocratie en France et il n'y en aura jamais. C'est une république.
C'est pas pour rien que je reçois aucun politicien à mon podcast. Premièrement, je veux pas être associée à aucun parti. Et deuxièmement, je pense plus jamais voter de ma vie. Mais après, je veux dire, je pense pas que ça signifie qu'il faut être complètement désabusé au niveau de la politique puis pas s'impliquer. Mais je pense qu'il faut choisir les façons comme écrire un livre, ce que tu as fait, venir me parler. J'ai l'impression que c'est plus en conscientisant les gens qu'on peut faire une différence, mais en se présentant aux élections, je vois pas comment on peut faire une différence. Même si on arrive là avec des bonnes intentions, le système n'est pas fait pour que vous puissiez y
Non.
changer quoi que ce soit.
Ben, si même avec toutes les meilleures intentions du monde, si demain tu es élu Premier ministre de ton pays, tu vas être tellement, tellement enfermé dans des. Tu es toute seule contre le système. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde les promesses de Donald Trump.
Mais il y en a
Ah.
qui diraient que tout est planifié, puis que tout est une stratégie, puis que ce qu'il nous montre, c'est pas ça qu'il est en train de faire. Moi, en tout cas, je sais plus quoi penser. Je suis juste impressionnée à quel point on peut interpréter la réalité comme on veut.
Oui, tout à fait.
Ça
Tout à
devient
fait.
vraiment difficile.
Si tu sais, quelqu'un te fait du mal, mais en fait, il te dit que c'est pour te faire du bien. Et toi, tu te
Ouais.
dis, bah ouais, c'est vrai, tu me fais du mal, mais c'est pour mon bien. On peut
Oui, mais
imaginer
ça,
un
à ce
tas de
niveau-là,
choses.
on pourrait tous être d'accord avec un point de vue extérieur où non, la personne se fait manipuler. Mais dans le cas de Trump, il y a vraiment des gens qui arrivent avec des arguments qui vont dire non, mais en fait, c'est sa stratégie pour que les médias mainstream parlent de Epstein ou peu importe. Moi, à mon avis, ce que ça fait, c'est qu'on a quand même un président qui est arrivé avec beaucoup de promesses, puis pour moi, ne livre pas la marchandise et fait exactement le contraire de ce qu'il nous avait dit. Mais ça, c'est mon opinion. Puis avec les données que j'ai, avec l'information que j'ai recueillie, mais je peux me tromper. En fait, c'est que c'est tellement complexe.
Bien sûr, ton information est nécessairement incomplète. Tu peux passer 24 heures sur
Absolument.
24 à te renseigner, c'est incomplet. C'est comme
Exact.
ça, hein, tu n'y peux rien. Je veux dire, tu ne vis pas dans le Congrès américain. Donc déjà, il faudrait y vivre toute la journée, toute la nuit, dormir dans les couloirs.
Oui. Non, c'est
Voilà.
ça. En fait, c'est de prendre conscience, et je pense que c'est super important, puis je le ramène souvent sur ma chaîne. On ne sait pas tout et donc on ne peut pas avoir aucune certitude.
Tout à
Puis ce
fait.
serait bien que les gens s'en rappellent des fois, petit reminder,
Mais je
parce
suis
que
tout à
ça
fait d'accord avec
devient,
toi.
je pense que quand c'est là qu'il n'y a plus de débat, puis ça devient juste de l'arrogance, du mépris. Je le vois beaucoup dans mes commentaires. Quand les gens sont dans des certitudes, ils ont le besoin de coloniser la pensée des autres pour qu'on pense tous comme eux. Moi, j'adore une circulation d'idées. Je t'apporte des choses que je trouve super intelligentes, intéressantes aujourd'hui. Est-ce que j'achète tout ce que tu dis? Peut-être pas, mais au moins,
Pas,
on circule les idées. Puis c'est
non. Tout à
comme
fait.
tu parlais, les stimuli du cerveau sont importants. On se stimule le cerveau. Tout ça, c'est bon. Je pense que c'est sain.
Bien sûr.
Mais je pense qu'on n'est pas obligé de tirer des conclusions, surtout. Bon, c'était ma petite parenthèse philosophique. J'aimerais qu'on revienne sur les enfants parce que tu as parlé.
Ouais.
Ça a été ta première motivation. Je sais que tu es papa aussi, comme
Ouais, tout
moi
à
qui est
fait.
maman. Moi aussi, même partir ma chaîne, ma motivation, ça a été beaucoup mes enfants que j'ai eus en 2020 puis en 2023, donc pendant cette période-là. Comment tu te positionnes par rapport, ici et maintenant, par rapport aux enfants? Est-ce que tu peux mesurer les impacts qui ont été pris? Est-ce que tu le vois dans ta vie? Est-ce que tu trouves qu'on a modifié au bon moment? Est-ce qu'on s'est rattrapé? Parle-nous donc un peu de ta lecture des enfants pendant la pandémie.
Bien, j'ai vu des différences notables sur le comportement des enfants. J'ai par ailleurs d'autres activités associatives, sportives avec des enfants. Pas de détails, mais voilà, que je pratique en général et notamment après le Covid. Et j'ai constaté ouais, des sérieux problèmes
Comme
sur
quoi?
des enfants. Déjà des problèmes de santé physique, hein, manque de cardio, manque de capacité motrice, manque de. Enfin, tout ça,
Le
c'est pas
langage, tu
terrible.
parlais de langage tantôt aussi, difficulté du
Moi,
langage.
j'ai constaté des régressions du langage sur mon propre enfant.
Ah oui, ton enfant allait
C'est-à-dire
à
qu'elle
l'école à ce moment-là?
allait à l'école,
OK.
elle était en phase d'apprentissage de la parole, donc elle devait avoir 3 ans, 2-3 ans, comme ça. Et il s'est avéré qu'elle perdait des syllabes. Donc, j'ai
Ah
dû lui
ouais.
réapprendre des syllabes. Hein,
Parce
bon,
qu'elle
voilà.
a porté le masque à ce moment-là, ou était
Non, elle ne
exposée à des
portait pas
gens
de
qui avaient le
masque,
masque?
mais elle était exposée à des gens qui avaient le masque. Donc, avec sa mère, on a pris le choix d'essayer de la mettre à l'école le moins possible à cette époque-là.
Il y a beaucoup de gens
D'accord?
qui ont fait ça.
Après, une fois que, tout à fait, une fois que les choses sont revenues à la normale, pas de problème, c'est super. Amuse-toi à l'école. Mais j'ai entendu pas mal de choses sur. Bon. Si tu veux, au niveau psychosocial, comment ça fonctionne un groupe? Un groupe d'humains, chez les enfants, c'est pareil. Chez les adultes, c'est pareil. On a tous besoin d'un groupe de référence. Hein. On a besoin d'amis, on a besoin de famille, on a besoin de. Voilà. Le problème, c'est que dans un groupe, on a besoin de se donner des marques d'amour, de respect, d'affection. Et c'est ça qui soude le groupe. Hein. Pense à quand tu vas voir ton groupe de potes, vous allez boire un coup en ville, eh ben, ça fait plaisir de les voir, tu vois ta vieille copine, tu lui fais un gros câlin, etc. Si tu ne peux plus te donner de l'amour, si tu ne peux plus voir le beau sourire de ta meilleure amie, Julie, que tu adores trop, si tu ne peux plus te donner des marques de positives dans le groupe, indépendamment de toi, le groupe doit survivre. D'accord? Donc, si je ne peux pas donner de l'amour à mes amis, en fait, le groupe va devoir survivre en se retournant contre quelqu'un. C'est l'effet mouton noir. si tu veux. Il y a en France, on parle énormément d'augmentation du harcèlement à l'école. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on a modifié le comportement. Quand on modifie le comportement de quelqu'un, ça reste. Hein, ça ne part pas tout de suite. C'est-à-dire le comportement, la façon dont fonctionnent les groupes humains a été modifié. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui vont devoir projeter leur colère et leur haine grâce au groupe sur un mouton noir. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Ça n'a aucune espèce d'importance pour rester dans le groupe. Et ça, pour eux, c'est un besoin vital. Hein, nous, on est grands. Quand on est exclu d'un groupe, déjà, ça fait mal. Ça
Oui.
pique. Hein, t'es là, bro. Franchement, c'est vraiment pas sympa. Mais quand tu es enfant, c'est carrément horrible. C'est carrément
C'est
horrible. Et
insupportable, en
pleure.
fait.
C'est insupportable. Tu as un besoin vital. La sociabilisation pour un être humain, c'est un besoin vital. Si je te prends, je te mets toute seule dans une cellule de prison pendant un an avec toute seule et une corde, avant un an, tu te seras pendu.
C'est sûr.
Voilà.
Et selon
Donc.
toi, on a imposé ça à nos enfants en toute connaissance de cause?
Il y a des personnes qui le savaient. Moi, en tout cas, moi, je suis un psychologue de base, hein, c'est-à-dire que j'ai fait 5 ans d'études. J'ai pas fait un doctorat. Je suis pas exceptionnellement brillant. Je suis pas un gros caïd de la psychologie. Pourtant, tout ça, je le sais. Donc, explique-moi comment ça se fait que les autres le sachent pas.
Ben, puis moi, je suis même pas psychologue. Puis c'est la première alarme que j'ai sonnée sur ma chaîne. C'était. Mais il faut qu'on prenne les dommages psychologiques qu'on est en train de se faire comme société. On est des êtres sociaux. Moi, en plus, j'étais enceinte. Je suis tombée enceinte avant la pandémie, puis j'ai accouché pendant la pandémie. Donc, j'ai vécu ma grossesse enfermée, cloîtrée. Il n'y a personne qui m'a vue, sauf mes parents. Mes amis, d'ailleurs, ces amis de cette époque-là, je ne leur parle plus, mais personne ne voulait me voir. J'ai même pas pu apprendre, tu sais, la nouvelle. Ah, je suis enceinte, j'ai pas pu faire ça à personne. On n'avait même pas le droit d'avoir de shower ou. Alors, ça a vraiment été, pour moi, très, très frappant à quel point on avait perdu notre humanité. Je me dis, voyons, c'est des moments importants. J'ai vu des gens qui ne pouvaient pas enterrer un mort. J'étais en train de magasiner pour le plancher de notre appart. On avait un dégât d'eau dans notre maison. Puis le gars qui nous vendait le plancher s'est mis à pleurer parce que sa femme était décédée, puis parce qu'il n'avait pas pu l'enterrer, puis il n'était pas capable de faire son deuil. Puis j'ai pensé à lui, je l'ai porté dans mes pensées pendant des mois parce que j'étais vraiment horrifiée. Je me dis, mais comment on peut se faire ça comme société? Mais enterrez-la, puis faites-lui un rituel que ce pauvre homme, en plus, qui était devenu père monoparental d'une jeune fille à cette époque-là, elle avait 6 ans. Je me disais, il est complètement désespéré, puis on fait ça, c'est pas un cas unique. C'est tellement à grande échelle ce qu'on s'est fait vivre comme. C'est un traumatisme. Tu parlais tantôt de choc post-traumatique de guerre. C'est là qu'on le voit. Je veux dire, c'est horrible ce qu'on s'est fait vivre comme société. Et tout le monde disait, oui, mais il faut le faire. Tape sur l'épaule. Il le faut parce qu'il y a un virus. Puis parce que c'est Trump qui avait dit, il me semble qu'il ne faudrait pas que the cure becomes worse than the. Faut pas qu'on ait. On est en train de faire en sorte que finalement la solution est pire que ce qui se passe vraiment. Et là, parce que c'était Trump qui l'avait dit que Trump, c'est Hitler et que c'est un fou. Mais comme si on reproduisait cette même prise de conscience, on était des fous. Bref, j'aimerais t'entendre là-dessus par rapport à ça. Je veux juste te rebondir là-dessus.
Est-ce que je te donne mon sentiment personnel?
Ben oui, pourquoi pas, si tu es à l'aise de le faire, bien sûr.
Voilà, moi, je suis tout à fait à l'aise de le faire. Hein, je prends mes responsabilités. Je suis un grand garçon. Si j'ai commencé ce travail, c'est pour protéger mon enfant et je continue à le faire. Donc, pour moi, et ça, c'est mon avis personnel. Je m'exprime sans aucune preuve, mais c'est ce que je pense. Je pense que le virus était un bon prétexte pour nous détruire psychologiquement. Pourquoi? Parce que dans l'art de la guerre, en fait, si tu détruis ton ennemi psychologiquement, tu n'as même plus besoin de le vaincre physiquement. C'est très simple. Et donc, en psychologie sociale, on considère les rapports intergroupes en fonction d'une caractéristique en particulier, c'est la domination. Il y a les groupes dominants et les groupes dominés. Voilà. La question est de savoir comment s'exprime cette domination. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très fort dans le système république. Hein, il y a les élus, le président, les ministres. Alors chez nous, c'est les sénateurs, les députés. Je ne sais pas exactement comment ça se passe chez toi. Je ne suis
Différent, oui.
pas féru de politique canadienne, malheureusement. Donc ça, c'est les dominants. D'accord? Et eux, ce qu'ils doivent faire, c'est dominer les dominés, tout simplement. On peut voir aussi les rapports hommes-femmes. Souvent dans nos sociétés, les hommes sont plus dominants que les femmes. Hein. Problème d'égalité au travail, par exemple, ça c'est un reflet. Les adultes sont dominants sur les enfants. Bien souvent dans les pays du Nord, ce sont les blancs qui sont dominants sur les noirs. Et en fait, ça, on le retrouve très facilement dans les rapports sociaux. Le but de la République, c'est de créer une caste de dominants qui va dominer
La
les pauvres
plèbe.
gens, que la plèbe, c'est ça, les gueux, comme on dit partout.
Ouais.
Donc, pour moi, cette histoire de Covid, on aurait pu le gérer d'un million de façons plus intelligentes. C'était un bon prétexte pour détruire la société et notamment la nucléariser. Si tu veux, à partir dans les années 70, dans le conflit de la guerre froide entre les États-Unis et
La Russie.
l'URSS, on a appris comment créer une psychose paranoïaque artificielle. Hein, c'est quelque chose qu'on a appris dans les sous-marins. C'est très simple. Imagine, tu es dans un sous-marin, tu es un Américain, et là, la rumeur court qu'il y a un espion russe.
Dans le
Ça fout
sous-marin avec vous.
dans le sous-marin avec toi. Ça se trouve, c'est toi, ça se trouve, c'est moi, ça se trouve, c'est ton meilleur pote, ou tu ne sais pas qui c'est. Et donc, ça te fout un bordel incroyable. Parce que tu commences à réfléchir comme un paranoïaque. Et à force de réfléchir comme un paranoïaque, tu deviens un paranoïaque. Je ne sais pas si tu te souviens, à un certain moment, je ne sais pas comment ça s'est passé chez toi, chez nous, ils nous ont balancé ce qu'ils appelaient les malades asymptomatiques.
Ben oui,
Est-ce que
mais
tu
ça a
les
été
as eus
la
aussi?
pire fraude, selon moi, de la
Voilà.
pandémie.
Ça, c'est la création évidente d'une psychose paranoïaque de masse,
Tout le
artificielle.
monde peut
Pour
être
moi, c'est
potentiellement ton ennemi.
ça. Et ça, pour moi, c'est clairement une technique de manipulation psychologique. Et des techniques de manipulation psychologique, j'en ai relevé à peu près une cinquantaine,
Est-ce que
personnellement.
tu veux
Pourtant, je t'ai
nous en
dit.
donner en rafale quelques-unes pour que les gens puissent faire, ah, OK, je comprends de quoi ils parlent, quelques exemples qui sont frappants.
Bien sûr,
Parce que
bah, il y en
50,
a.
c'est beaucoup.
Oui, c'est pour ça que je ne les ai pas tous mis dans le bouquin. Dans le bouquin, il y en a une vingtaine.
OK.
Après, j'ai fait d'autres conférences avec notamment Kairos, le vaillant média belge. Je ne sais pas si tu connais. Ils sont très bien. On a fait 5 heures d'explication là-dessus. Et c'est
Wow.
vraiment la grosse, grosse tartine. Je vous invite à regarder si vous avez vraiment du temps.
C'est disponible sur YouTube?
Sur YouTube, c'était disponible. En tout cas, c'est disponible sur ma
OK.
chaîne YouTube et c'est disponible surtout sur le site de Kairos parce qu'ils ont perdu leur chaîne YouTube 15 fois.
OK, ils sont pires que moi.
Enfin, je dis 15 fois, c'est une façon de parler, mais plusieurs fois quand
Ouais, j'imagine. C'était pas
même.
facile pendant ce temps-là.
Donc, tu me parles
Vas-y.
de techniques de manipulation. Celle que moi j'explique dans le petit guide, c'est la stratégie du choc, celle qui est expliquée par Naomi Klein.
Qui est la première qui a comme embarqué dans le narratif COVID. Pour moi, Naomi Klein, ça a été une déception. Elle puis Noam Chomsky, petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on a tous vu sa théorie
Ouais.
du choc, mais la stratégie du choc, mais elle n'avait pas l'air à la remarquer. Là. Ça l'a pas dérangée. Mais pour ceux qui
Tu
ne connaissent
sais,
pas Naomi Klein, tu peux peut-être expliquer c'est quoi la stratégie du choc.
bah, la stratégie du choc, c'est imprimer un choc émotionnel intense chez la victime, notamment une population, pour après pouvoir l'amener là où on veut. Hein, exemple, le 11 septembre 2001, gros attentat, et tout de suite, on va déclarer la guerre à 4 ou 5 pays. Quel rapport? On n'a pas vraiment, en fait.
Non, c'est ça.
Voilà, on n'a toujours pas trouvé les terroristes. Enfin, si, peut-être c'est eux, peut-être non. Enfin, voilà. Donc, stratégie du choc, la peur, bien sûr. La secte crée une secte. Si tu regardes clairement, la pandémie a été gérée comme on gère une secte. C'est-à-dire qu'une secte, pour te faire rentrer dans une secte, il faut que je coupe tes liens avec ta famille, tes amis, etc. Et après, je te renormalise, je te explique quelles sont les bonnes choses à faire. Mais ça marche que si j'ai coupé tes liens. D'accord? Donc,
Effectivement.
on te fait rentrer dans une secte en coupant tes liens, on te met devant la télé, on te dit aie peur du virus. Voilà, c'est la secte.
Puis on encourageait même, en tout cas moi j'ai des extraits en tête là où je vois Mario Dumont ou nos animateurs qui disaient là, si votre beau-frère il s'est pas fait vacciner pour Noël, ben là vous pouvez plus parler à votre beau-frère là. Tu sais, c'était, il encourageait vraiment la scission, la coupure, la rupture avec la
C'est ça.
famille. C'était, puis vous faites maintenant partie de notre clan, tu sais, c'est bien, vous êtes
C'est ça.
dans le côté des bons, de la vertu.
C'est le clan de la secte des Covidistes. On peut le dire comme ça. Des techniques de désorientation qu'on retrouvait notamment dans les camps de concentration nazis. Hein, les désorienter la population, ça sert à les empêcher de. Si tu veux, si je te désoriente et je change tes habitudes tous les jours, ça va être tellement gourmand en énergie mentale que tu n'auras plus d'énergie pour le reste. Tu ne pourras plus réfléchir. Tu
Donc,
vas devoir t'adapter tous les jours.
ce que tu es en train de dire, c'est pas la première fois que je l'entends, c'est que Cette idée de toujours changer à tous les une journée, si on porte le masque, le lendemain, on porte plus le masque. Une journée, on se lave les mains, l'autre journée, 2 mètres, à un moment donné, c'est 1,5 mètre. De constamment changer ces mesures-là, c'était pas fait. Les gens pensaient que c'est parce qu'ils étaient comme tout mêlés, puis on voyait qu'ils faisaient leur possible pour gérer une crise, mais finalement, c'était une technique de manipulation selon toi.
Pour moi, c'est une technique de manipulation. Quand tu changes le sens de fonctionnement des supermarchés, tu mets des flèches par terre. À l'école, en France, il y avait 4 niveaux d'alerte sanitaire. Donc, les protocoles changeaient toutes les semaines, quasiment.
Selon des couleurs ou
Selon, il y avait un code couleur, 1, 2, 3, 4, plus ou moins grave. Donc, et les professeurs doivent passer énormément de temps et d'énergie à s'adapter à ça. Ils n'ont plus l'énergie de réfléchir. Hein, c'est à ça que ça sert à la désorientation. Et tu retrouves ça dans les livres de Primo Levi et de Bruno Bettelheim quand ils parlent de leur expérience dans les camps de concentration. Bien sûr, la technique du cheval de Troie. Hein, le célèbre, je ne sais pas si la tête qu'il avait chez vous, le bandeau des protocoles sanitaires, c'est un cheval de Troie. C'est-à-dire que tu as un joli cheval et dedans, au milieu, tu as une arme de torture psychologique. Le conditionnement opérant. C'est-à-dire d'abord on te choque et après on te reconditionne. Le conditionnement opérant, c'est ce qu'on fait à la base pour modifier le comportement des rats, des souris, des pigeons à partir des années 50. Et maintenant, on sait très bien l'utiliser avec les humains. Donc en fait, ce qu'on nous a fait, c'est du conditionnement. C'est comme ça que ça s'appelle.
Peux-tu expliquer un peu plus c'est quoi du conditionnement?
Alors, dans le
Comment on se fait
conditionnement,
conditionner?
comment je te conditionne? Mettons que je veuille modifier ton comportement. Je vais, si tu fais la mauvaise chose, ce que j'estime être la mauvaise chose, tu auras une punition. Un
Par exemple, je
électrochoc,
ne
par
veux pas
exemple.
recevoir ma première dose.
Ah, mauvaise réponse, donc je te mets une amende. Allez, 100 dollars, bam, dans ta
Allez,
gueule, par
1 500,
exemple.
allez.
Allez, 1500. Je ne sais pas combien c'était chez vous.
Ben
Chez nous,
1 500,
c'était.
si on sortait après le couvre-feu, nous, on a eu 2 couvre-feux. Vous n'avez pas eu ça, je pense.
Nous, on a eu des couvre-feux, mais je ne
Ah
crois pas que les couvre-feux soient vraiment terminés en France. Hein. Mais ça, on en
c'est une autre
reparlera.
histoire.
C'est une autre histoire, là, ça devient complètement un truc de fou. Donc, le conditionnement, voilà. Et par contre, si tu fais la bonne chose, je te donne une petite boulette. Si tu étais un rat, je te donnerais une petite boulette de viande. Mais comme c'est toi, je te donne, par exemple, une bonification. Bravo, c'est super, tu as bien fait. Un bénéfice secondaire. Un
Le
bénéfice
sentiment
secondaire.
de faire partie du groupe, d'avoir la bonne vertu, d'être
Voilà,
un
c'est
bon
très
être
bien.
humain.
Tu es une bonne citoyenne, tu travailles pour ton pays, tu protèges tes enfants et ta grand-mère. Bravo. Donc ça, c'est du conditionnement. Le conditionnement est mesuré à la durée de la modification comportementale. Si cette modification dure longtemps, alors le conditionnement aura été puissant. Après, je ne vais pas rentrer
Ça explique
trop,
pourquoi on voit
trop.
encore des gens avec le masque en 2025.
Oui, tout à fait. C'est un conditionnement, c'est-à-dire que quand, souviens-toi, le chien de Pavlov, il est conditionné. Quand la cloche sonne, il est conditionné qu'il y aura de la bouffe, donc il commence à baver. Toi, c'est pareil. Quand la cloche sonne, c'est-à-dire au secours, il y a un virus, tu reçois un stress et donc tu as peur, tu mets ton masque. Voilà. Tu es
Voilà.
conditionné. Tu n'as pas le temps de réfléchir.
Non,
Stress,
c'est un
masque.
automatisme.
Voilà, c'est un automatisme. D'ailleurs, si tu vois un enfant, un petit enfant, et que tu lèves la main sur lui comme ça, s'il n'a pas été battu, généralement, il va te regarder comme ça avec un air bizarre. Si c'est un enfant qui a été souvent battu, il va se protéger. Il va se protéger très fort. Pourquoi? Parce qu'il a été conditionné. D'accord? C'est un exemple, on pourrait en trouver 1000. La technique du pied dans la porte, l'engagement, locus of control, concaténation, inversion accusatoire, double contrainte, psychose paranoïaque de masse, ce que je t'expliquais tout à l'heure dans les sous-marins, la pensée magique, la désinformation, alors ça, la désinformation, ça, je n'en parle pas plus, le cuteness et le syndrome de Stockholm.
Le cuteness.
Le cuteness, c'est la mignonneté, rendre mignon quelque chose. Par exemple, un chaton, c'est cute, donc. C'est pour ça que ça va faire des millions de vues. Si tu avais un petit chaton juste à côté de toi, c'est sûr que tu ferais plus de vues parce que tu
Je
serais
devrais m'en
plus
mettre un en
mignonne.
bibelot, en fait. Peut-être
Ah,
que je
mais
pourrais faire ça.
carrément, bah, ça serait beaucoup plus mignon. D'accord? Je sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait beaucoup d'affiches avec des enfants masqués, des affiches de dessinées avec des enfants masqués qui étaient très mignons. Ah, oh, c'est mignon, c'est chouette et tout ça. Alors qu'en fait, c'est méthode de torture. Si tu prends les photos de Guantanamo, c'est pas mignon,
Pas
ça ne
mignon.
marche pas.
Non, ça n'aurait
Si tu
pas
prends
mieux
les.
passé si on avait mis ça dans le métro pour nous
Non,
inciter
ça
à.
ne marchait pas. Alors, il te faut
Non.
quelque chose de mignon. On se sert du cuteness. Ça, c'est pour les techniques de psychologique normales, de base. Et après, il y a des techniques spécifiques de psychologie de nudge, parce que c'est vraiment ce qui marche fort en ce moment. Le nudge, c'est basé sur des biais cognitifs. Si tu veux, notre cerveau, on a tendance à croire qu'on est très malin, tous. Hein, alors qu'en fait, dans notre cerveau, ce qui nous sert à réfléchir, c'est l'équivalent d'une petite pomme. Enfin, c'est pas dingue. Et dans cette petite pomme, en fait, il y a plein d'angles morts. Comme quand tu fais un créneau, tu regardes dans tes miroirs, dans tes rétroviseurs, tu recules, bam, angle mort. Donc, le nudge se sert de ces angles morts pour modifier ton comportement. Et donc, on appelle ça des biais. Dans ton cerveau, il y a des biais cognitifs. Donc, le biais de statu quo, le biais d'ancrage, le biais d'effet de cadre, de preuve sociale, de perte aversion, de cadrage des messages.
Peux-tu expliquer, prends-en un ou deux, mais nous
Je t'en prends un là
détailler,
tout de
ouais.
suite, le cadrage des messages. Le cadrage
Qu'est-ce?
des messages, c'est par exemple si je veux te faire passer un message à toi, Hello, qui est une femme, ça serait peut-être mieux si c'est une femme qui te parle sur l'affiche, tu vois. Par exemple, si tu vois Justin Trudeau avec ses 1000 déguisements, c'est pas pour rien. C'est pas juste parce qu'il aime se déguiser, sûrement qu'il aime ça un petit peu quand même, mais c'est parce que c'est une technique de nudge, c'est le cadrage des messages. Quand tu vas voir des agriculteurs, tu prends une botte de paille. Quand tu vas voir des cadres, tu te mets un costard. Quand tu parles avec des
Quand tu
jeunes,
vas
tu
en
portes un
Inde,
t-shirt.
tu portes le costume traditionnel. Mais justement, c'était pas fait avec une telle maladresse que si c'est mal fait à un moment donné, ça peut amener les gens à prendre conscience qu'ils se font. En tout cas, ça
Bien
paraît
sûr.
ridicule, du moins.
Bien sûr. Bah, moi, vu de France, quand je vois le grand poster avec tous les déguisements de Justin Trudeau, forcément, je ne trouve pas ça crédible.
Non.
Mais Macron fait un peu la même chose. Si tu veux, quand il va sur la plateforme TikTok pour parler aux jeunes, il met un t-shirt. J'ai jamais vu un président de la France en t-shirt.
Ah, il est
C'est pas que c'est
tellement cool.
choquant.
Non.
Il est tellement cool, c'est
Ouais, c'est
un
un gars du
jeune,
peuple.
il a à peine 39 ans. Bon, par exemple, le biais de gamification. Je vais transformer une contrainte en jeu. Donc, je vais te dire, est-ce que tu es prête à relever le challenge de protège-toi contre le Covid
Ou prends ta
avec tous tes copains?
photo sur les réseaux sociaux avec...
Ah ouais,
Ouais, tout le monde le faisait.
avec ton petit pansement.
Ouais.
Le biais de régularité et répétition. C'est-à-dire que pour améliorer la puissance d'une modification comportementale, je vais régulièrement répéter le même message, c'est-à-dire toutes les heures au supermarché, à la radio, à la télé, etc. Ça s'appelle un nudge qui s'appelle la régularité et répétition. D'accord? Ça, c'est un truc qu'on a tous vu.
Les nudges, c'est nouveau, ça, ou ça existe depuis longtemps?
Alors, le nudge, c'est apparu à partir de 2010 à peu près, et
OK.
ça a vraiment commencé à être utilisé autour de 2014-2015 pour essayer par les gouvernements.
Par les
Moi, j'ai dû en
gouvernements.
par les gouvernements, notamment, mais aussi par des entreprises privées qui veulent faire de la pub, par exemple.
Oui.
On pourrait tout à fait, moi, je serais assez d'accord dans l'idée qu'on nous nudge à manger 5 fruits et légumes par jour. C'est pas mal.
Ouais.
Pourquoi pas utiliser ça comme ça? Ou me faire nudger pour arrêter de
Mais
fumer?
arrêter de prendre notre douche le matin pour économiser de l'énergie ou ce genre de choses-là, c'est peut-être moins cool.
Ça devient douteux. Et là, tu vas tomber dans, par exemple, une nouvelle branche de la psychologie là, qui vient de sortir, je ne connaissais pas. C'est psychologie de l'écosystème. Non, c'est psychologie. Bon, bref, ce sont toutes les techniques psychologiques qu'on va utiliser sur toi pour t'aider à devenir plus green, pour
Ouais, OK.
t'aider à
Le
sauver la
greenwashing,
planète.
mais dans la
Le
psychologie.
greenwashing, mais dans la psychologie. Et donc, pour permettre de modifier ton comportement en vue d'objectifs qui sont affichés comme écologiques, mais en fait, ce n'est pas toi qui décides de ces objectifs, parce que tu n'es pas dans une démocratie, tu es dans une république. Enfin, en tout
À
cas,
toi pour
moi, je
vous.
parle de moi, je parle de
Ouais.
moi, je parle de moi, je parle de moi. Pardon, pardon. Utilisation d'autorité et d'influenceurs. Utiliser les influenceurs, c'est une technique de nudging aussi, ça, je
C'est
pense
drôle
que
parce que
c'est
ça, j'en parlais dans ma conférence justement parce que il y a des documents qui datent là, de qui ont été déclassifiés, mais de l'armée américaine qui utilisait déjà à l'époque ça s'appelle c'est en 1947, c'est un mémo de l'OSS, donc l'ancêtre de la CIA qui montre en fait, c'est pour comment utiliser les armes de guerre psychologique sur la population. Puis ça expliquait justement comment utiliser. Ils ont utilisé Hollywood et les grandes vedettes de cette époque-là pour justement faire de la propagande ou aider à passer un message parce que c'est plus cool. Puis maintenant, on voit encore que c'est utilisé. Ça a été utilisé, mais à fond, là. On a vu tellement ici, en tout cas au Québec. Puis on sait, parce qu'il y a des chiffres qui sont sortis, on sait combien les vedettes, je pense à Sarah-Jeanne Labrosse, qui est une méga vedette des jeunes avec Pierre-Luc Funk, ils ont participé à la conférence de presse du premier ministre Legault. Et là, ils ont dit pendant 2, 3 minutes maximum, là, il fallait porter le masque, respecter la distanciation sociale. Et ils ont été payés de mémoire, je pense, 12 000 $.
Pas mal.
Ouais, ben c'est ça, juste pour 3 minutes, c'est quand même bien payé.
Ouais,
Mais c'est
j'avoue.
ça, on voit à quel point il y a un investissement qui est fait. C'est comme dans un, il y a une enveloppe budgétaire pour manipuler les gens à se comporter comme des bons citoyens.
Eh bien, tu sais, cette technique, en fait, la première fois qu'elle est utilisée, moi que je sache, c'est en 1917
Wow.
pour faire rentrer les États-Unis en guerre contre dans la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que le président de l'époque avait été élu sur la promesse qu'il n'entrerait pas en guerre. Les Américains ne voulaient pas se battre, ça se comprend.
C'est rare.
Personne n'a envie de se faire tuer. Pas tant que ça, en fait. Hein.
Ah ouais.
Ils n'avaient pas envie de se faire tuer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé la commission Creel, je crois que c'est Creel, dans laquelle il y avait notamment Edward Bernays, et ils ont décidé d'utiliser la technique pas des têtes d'affiche, bon, en gros, ils ont pris des stars d'opéra, de théâtre, etc., des chanteurs, ils ont réussi à former 40 000 personnes qu'ils ont distribuées sur le territoire pour... Le plan, c'est simple. Le mec prend une caisse, se monte dessus. Cela avait dit, oui, moi, je pense qu'il faut faire la guerre. Et il explique, il fait son petit speech pendant 2 minutes. Et voilà, c'est tout.
Wow.
Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à retourner l'opinion publique. Et en 1917, les États-Unis entrent en guerre.
Ça a fonctionné.
Et ça a fonctionné. Bien sûr que ça
Il n'y
fonctionne.
avait pas les moyens technologiques qu'on a maintenant. C'est ça aussi, quand on voit, on regarde l'histoire, on voit ce qui s'est fait. Maintenant, on connaît MK Ultra, on connaît les programmes qui ont été faits pour vraiment briser la psyché humaine, manipuler, contrôler les humains. C'était dans les années 50, 60, 70. Des fois, c'est ce que je dis aux gens, mais imaginez-vous ce qu'ils sont capables de faire maintenant, mais pourquoi ils auraient arrêté? Est-ce qu'on a exigé qu'ils arrêtent? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été en prison? Est-ce que vraiment comme un point de rupture qui a fait que ce système-là qui était en place s'est effondré et maintenant a complètement changé? Expliquez-moi ça parce que moi, j'ai pas vu ça dans l'histoire. Alors pourquoi on penserait que ces gouvernements-là qui ont développé des techniques de contrôle sur les masses qui fonctionnaient à merveille déjà dans les années 50, pourquoi ils auraient arrêté de les utiliser maintenant qu'ils ont des technologies encore plus à point? Parce qu'on peut imaginer aussi juste avec nos téléphones, tu sais, je vais en parler bientôt dans une capsule, j'ai l'intention d'en parler parce que on voit à quel point on devient zombie sur nos téléphones. Il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on est sur nos téléphones. C'est alarmant, la lumière bleue, mais...
Bien
Parce
sûr.
que là, on n'a pas parlé de la psychologie, tu nous parles des notes, des techniques de manipulation, mais on pourrait rentrer dans toute la technologie. Tu disais, on a été enfermés avec nos télévisions, mais c'est quoi le pouvoir de la télévision sur le cerveau humain? Et ça mérite de se poser ces questions-là quand même.
Alors, au niveau du smartphone, ce que je peux te dire, c'est que quand tu scrolles sur ton smartphone, ça active ton système dopaminergique. C'est le circuit de la récompense. En gros, ça marche comme de la cocaïne. Voilà. Basiquement, tu es accro à ton téléphone comme tu es accro à de la cocaïne. Ça marche pareil.
Mais attends, mais répète ce que tu viens de dire. C'est super important pour les parents qui mettent leurs enfants sur un
Alors,
téléphone. Répète ça.
ce que je dis, c'est que un smartphone, quand tu scrolles sur ton smartphone, sur YouTube, même si tu ne regardes pas des choses choquantes, hein, tu peux regarder des trucs très bien, ça suractive ton circuit dopaminergique. Donc, ton cerveau crée plus de dopamine. Le circuit dopaminergique, c'est le circuit de la récompense. Normalement, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles dur. Par exemple, là, je bosse dur, j'écris un bouquin, je te contacte, c'est pas facile, on s'envoie plein de mails, on fait une vidéo, etc. Et à la fin, j'ai ma récompense,
Ouais.
c'est-à-dire que j'ai un clip, j'ai une vidéo sur ta chaîne et l'on veut savoir. Ça, c'est ma récompense, et là, je suis content. Et mon système dopaminergique dit, bingo, bravo Yann, tu as bien travaillé et j'ai de la dopamine. Tu vois, tu travailles dur tout le mois, et à la fin du mois, tu as des sous-sous, tu gagnes de l'argent, bam, dopamine. Avec ton smartphone, à chaque fois que tu scrolles, clic, 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 à chaque fois, tu as de la dopamine.
Gratuitement, sans avoir fait aucun effort.
Gratuitement, sans aucun effort. Et ça marche comme la cocaïne. La cocaïne suractive ton circuit dopaminergique. Et
Donc,
c'est pour
ça
ça
crée une
qu'on est
dépendance.
accro. C'est pour ça qu'on est accro au smartphone, bien sûr. Et si tu n'en as pas, c'est comme être en manque de coke, tu vas te sentir déprimé, voire très, très déprimé. D'accord?
Léthargique, pas
Voilà.
forcément d'entrain pour partir
Tu te
un
sens pas
projet ou
bien, t'es pas motivé, t'as pas envie,
paresseux.
voire même quand t'as pas assez de likes sur Facebook. Moi j'ai eu comment dire, des personnes qui m'ont raconté ça. D'habitude j'ai au moins 100 likes ou 500 likes sur Facebook. Si je ne les ai pas, je me sens mal. Hein?
Quand c'est
Je suis en
rendu ça,
manque.
ton,
Je suis en manque.
ton radar là, pour savoir si ta valeur humaine, il y a un petit problème. Mais imagine à quel point on s'est fait insidieusement créer une nouvelle norme. On parlait de la nouvelle norme tantôt. Il n'y a plus personne qui n'a pas les réseaux sociaux. En tout cas, c'est rare, là, c'est extrêmement rare. Même les
C'est
plus
assez
grands
rare.
résistants ont fini par avoir des téléphones. Puis le problème, c'est que maintenant qu'on a tous des téléphones, puis on n'a plus des téléphones avec une ligne. Ben, nos enfants sont sur nos téléphones aussi assez rapidement. Et on voit la dépendance. Moi, je veux dire, mais on est très, très, très prudent avec nos enfants, mais on voit quand ils sont sur le téléphone, ils tombent sous hypnose, complètement obnubilés. Je leur parle, ils m'entendent pas.
C'est le
Donc,
deuxième effet. Tout à l'heure, tu me demandais l'effet de la télévision. En fait, quand tu regardes la télévision, un écran n'importe lequel, en fait, ton cerveau change de façon de fonctionner. Alors, ça, on part dans les électroencéphalogrammes. Je ne suis pas expert là-dedans, mais en gros, tu as plusieurs types d'ondes cérébrales. Alors, alpha, bêta, gamma et θ, je crois. C'est long, c'est loin ces souvenirs. En fait, quand tu regardes la télé, au bout de 3 à 9 minutes à peu près, ton cerveau change d'onde cérébrale. D'accord? Tu es en onde, je crois que tu es en onde, je crois que tu passes en onde bêta, faut vérifier. En
Qui sont
fait,
les ondes du sommeil, c'est
voilà, c'est
ça?
comme quand tu rêves. Donc en fait, quand tu regardes, par exemple, pour en revenir au Covid, le discours phare d'Emmanuel Macron, nous sommes en guerre. Donc c'est un discours qui dure une demi-heure. C'est hyper long. Donc, au bout de 10 minutes, tu es complètement hypnotisé parce que ça fait la même chose, ça t'hypnotise. Et là, il te balance, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, ayez peur, ayez peur. Et donc, ça va te choquer profondément parce que tes défenses psychiques sont à plat. C'est la même façon, de la même façon, quand tu regardes ta série préférée, alors tu regardes ta série, c'est super, ça va, et puis au bout d'une demi-heure, bam, de la pub. Pourquoi? Parce que tu es comme ça devant ton écran. Tes défenses mentales sont complètement à plat, et là, la pub, elle rentre tout au fond. Et c'est pour ça que quand tu vas boire un soda dégueulasse qui rend gros et qui est pas bon pour la santé, quand tu vois ce soda dans le rayon, tu penses à une jolie fille en maillot de bain sur la plage. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi? Parce que c'est rentré profond dans ton inconscient. Okay? Donc, la télévision a ce pouvoir de t'endormir et de t'hypnotiser. Hein, moi, ce que j'ai expliqué à mon enfant, voilà, t'es hypnotisé, on arrête la télé. Elle a fini par comprendre. Mais ça n'empêche pas, des fois, on regarde la télé, j'essaie de sélectionner des choses intéressantes. Enfin, la télé, j'ai pas de télé chez moi depuis 20 ans. On regarde un film, un documentaire, une vidéo, un dessin animé.
Puis
Voilà.
au préalablement filtré, moi maintenant je m'assure que mes enfants regardent des choses que j'ai vues
Ah,
parce
mais
qu'il y a
je... Oui. Ah oui. Ah
tellement
oui, ah
de
oui.
cochonneries dans les. Mais on voit qu'il y a un endoctrinement aussi qui se fait dans
Ah,
les
tout à fait.
programmes pour enfants.
Tout à fait.
Ça
Il y a
s'appelle des programmes
notamment.
en fait, hein, c'est intéressant quand même aussi.
Ouais, c'est de la programmation. Tu regardes une chaîne, tu es enchaîné, tu es programmé. Je vois par exemple, il y a. Peut-être que c'est passé par chez vous aussi, un dessin animé avec des petits chiens et des. Oui, des petits chiens qui sont déguisés. Il y en a un pompier, il y en a un qui est
La Patte
flic, il y en
Patrouille.
a. Ouais, voilà, c'est ça.
Mais
Merci.
non, mais attends, c'est une religion, la Patte Patrouille. C'est
Ah oui,
tellement,
voilà.
tellement populaire, là.
Donc, si tu les regardes de près, ces petits chiens-là, tu remarqueras qu'ils ont des pupilles surdilatées.
Mais tu penses que c'est voulu?
Voilà. Ben, ça, c'est un signal sexuel.
Non, c'est vrai!
Hein? Ben oui, bien sûr.
C'est pas un peu de la
Quand
parano,
tu.
ça?
Tu penses que tu veux, Elio. Hein? Franchement, tu n'es pas. Moi, je dis ce que je pense, je ne suis pas obligé de tout acheter.
Parfait, parfait.
Quand tu fais du eye contact avec une personne de ton goût, en fait, quand tu es en phase de séduction, en fait, la pupille varie de volume et quand tu es excité, la pupille s'élargit un petit peu comme si on mangeait des ecstasies, par exemple, où les gens ont des pupilles comme ça. Et ça, ce sont des signaux sexuels. Si tu regardes dans de nombreux dessins animés, tu verras beaucoup de personnages de dessins animés qui, maintenant, ont des pupilles très dilatées. Ce sont des signaux sexuels, ce
Intéressant.
qu'il n'y avait pas trop dans les années 80.
Non,
Hein?
c'est ça, j'allais te demander, on voyait pas
Voilà.
ça avant?
Donc, c'est pour ça que moi, je vais jusque-là pour expliquer que c'est pas juste quand on montre des nichons et des fesses. Hein?
Non,
C'est
c'est il y a des
partout.
codes qui se mettent un peu partout, même de façon très subliminale.
Oh, c'est
Bon,
très,
on
très.
rentrera peut-être pas dans toute la question de l'hypersexualisation des jeunes puis de la pédocriminalité, mais finalement, ça finit par tout se relier. C'est ça qui est. Quand on est vraiment intéressé à comprendre les mécanismes du monde gangréné dans lequel on vit, on finit tous par se rendre aux mêmes places. Ça finit par nous ramener à cette hypersexualisation des enfants, à ce contrôle extrême sur la population, comme tu disais,
C'est vrai
cette
qu'on fait des
relation
liens.
dominant. Oui, c'est ça. C'est que finalement, il y a des modus operandi, puis il y a des patterns qu'on remarque. Et toi, maintenant, comment tu. Maintenant que tu as fait toutes ces prises de conscience-là, tu as écrit ton livre, bon, maintenant, plug ton livre, comment on peut se le procurer? Est-ce qu'il est en vente?
Alors, tout à fait. Mon livre est en vente à 6,99 €. Le problème, c'est que pour l'envoyer par chez toi au Québec, ça va coûter 10 $ de frais de port. Donc, c'est
Oui.
vraiment pas hyper intéressant. Donc, c'est pour ça que là, je le vends uniquement. Alors, je n'ai pas trouvé d'éditeur pour l'instant. Donc, c'est du fait maison. J'ai des exemplaires à la maison. Voilà, je fais ce que
Est-ce
je
que
peux.
c'est possible de se procurer en e-book?
Alors justement, là sur mon site letrespetitguide.fr, ce matin, je t'ai fait une case spéciale Canada où tu peux
Wow.
payer en dollars canadiens. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant,
C'est
tu peux payer en dollars
cool.
canadiens.
Bravo.
Donc, vous pouvez vous procurer en PDF au prix de 3 $ canadiens.
Est-ce
Voilà.
que tu avais envie de te faire un peu d'argent avec ça ou c'était vraiment pas... Pourquoi pas le donner rendu à ce prix-là?
À la base, moi, j'ai fait juste des petites conférences internet et comme en fait j'avais beaucoup de mal à contacter des annonceurs, à contacter des personnes qui me fassent passer sur leur chaîne, j'ai décidé de faire un livre et je me suis dit, tiens, je vais faire un livre, je vais leur envoyer et comme ça ils vont voir que c'est du sérieux. Parce que souvent, quand t'as pas écrit un livre, les gens te prennent pas au sérieux. C'est comme ça. Donc j'ai écrit ce livre dans ce but-là. Et ensuite, ben, il faut que j'achète les exemplaires, il faut que je paye les
Oui.
timbres,
Mais
etc.
mon
etc.
point,
C'est
c'est que tu
beaucoup de
aurais
temps
pu
de
le vendre
travail.
beaucoup plus cher.
Ben moi, mon but, c'est de le vendre vraiment pas cher. Il fait 100 pages. Il est vendu 6,99 €. Je veux que ça, en France, avec les frais de port, ça fait 9,99 € dans ta boîte aux lettres. Moi, je veux que tout le monde puisse se le payer s'il veut. Et le e-book, ben, c'est du version PDF parce que je n'ai pas
Oui.
réussi à faire un e-book e-book. C'est 2 euros en France. Donc,
Ben,
le but,
écoute,
c'est que tout le
j'invite tout
monde
le
puisse se
monde
le payer.
à se le procurer. Puis j'ai beaucoup de gens qui me suivent en Europe. Tu parles de la France, mais j'imagine que la Belgique, la Suisse et tout ça peuvent aussi se le procurer ou?
Alors, tout à fait, j'expédiais dans toute l'Europe, là, mais là, ça va s'arrêter parce que les frais de port depuis la France vont beaucoup augmenter ce mois-ci. Ils vont
Ah.
tripler, en fait.
Ah bon.
Donc, je pense que ça va s'arrêter, à moins que quelqu'un ait envie de payer le double du prix pour un tout petit livre.
Ah,
Mais
merveilleux. Bon.
rassurez-vous, si vous n'avez pas le livre, si vous ne pouvez pas l'acheter, si vous ne voulez pas l'acheter, comme je te disais tout à l'heure, on a fait plusieurs conférences, notamment avec le Front médiatique et avec Kairos, le vaillant média belge. Où c'est, je vous mets vraiment la grosse tartine. Hein. Ça,
Merveilleux.
c'est un petit résumé des grosses conférences qu'on a faites.
Puis
Voilà.
ces conférences-là sont
Et c'est gratuit.
accessibles gratuitement. Tu
Gratuitement
parlais de
sur
ton
YouTube,
site
Odyssée,
web.
etc., etc. Oui.
C'est, peux-tu redire c'est quoi ton...
Letrespetitguide.fr. Tout
Parfait.
attaché, sans accent, très
Merveilleux.
facile. Et c'est juste le site où on vend le livre et il y a un lien vers les conférences.
Excellent. À partir de maintenant, comment tu vois le futur? Si on veut terminer sur une note positive ou négative. Allez, sois optimiste.
ça va pas être très positif, ça va pas être
Non.
très positif. Moi, le futur, je le vois d'une façon très simple, c'est que tant que nous, et je parle pour la France, mais peut-être que pour le Canada, c'est pas très différent, tant que nous resterons dans un système république, ça ne fera qu'empirer. Parce que les problèmes interpersonnels, les problèmes relationnels, humains et psychologiques, si on ne trouve pas de solution, ne font qu'empirer. C'est une règle de base. Donc, comment faire en fait? Moi, je parle à mes compatriotes français et pour la France. J'ai envie de dire, si on commençait à construire la France au lieu d'être juste les esclaves de la République de la France, hein, c'est juste un modèle organisationnel. On peut s'organiser de 1000 façons différentes. Pourquoi pas une démocratie? Moi, j'aime bien le principe. Et ça, on peut tout à fait le faire. On a les capacités, on a les moyens, on a les outils, on a les méthodes. Tout ce qui nous manque, c'est de nous réunir. Il faut qu'on se réunisse.
Pense qu'il manque aussi de prendre conscience qu'on n'est pas en démocratie. On nous a tellement bien vendu le paquet
Ben oui,
cadeau,
bien
et
sûr.
de détruire cette illusion, il y a du chemin à faire.
C'est sûr, il y a du chemin à faire. Et c'est une
Oui.
illusion qu'on apprend d'ailleurs tout petit à l'école. Et c'est pas pour rien
Exact.
qu'au journal télévisé, on nous répète à foison dans nos démocraties, nos démocraties, nos démocraties. Si c'était vraiment le cas, est-ce qu'on aurait besoin de nous le répéter 15 fois?
En tout cas, ça mérite une profonde réflexion. Puis je te remercie de l'effort que tu fais. Puis je sais qu'aller à contre-courant, ça amène des défis dans la vie au
Ouais, des
quotidien
défis, des problèmes.
et des problèmes, exactement. Mais je pense quand même qu'on est porté par une motivation qui est noble. Puis espérons qu'un jour, il y aura un juste retour des choses. Je te remercie beaucoup pour ton temps, Yann. C'était vraiment super intéressant. J'espère te recevoir à nouveau. Je me semble que j'aurais posé encore 100 000 questions, mais je pense qu'on
Avec
a déjà...
plaisir.
on
Avec
fera peut-être
plaisir.
une partie 2 un jour, puis on invitera peut-être, si c'est en direct, les gens pourront poser des questions au fur et à mesure. Ça pourrait être très intéressant.
Carrément. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Louise.
Avec plaisir, merci de m'avoir contacté.